Même droit que les Ariens, novembre 34. Et on institue même un service spécial pour recevoir les doléances des Juifs qui auraient à se plaindre de discrimination dans l'industrie ou l'économie privée. Bien entendu, le Zentralverein, dont Kurt a parlé, Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, continue à penser qu'on va arriver à un modus vivendi avec le nouveau régime. Et je vous cite un texte de février 1934, dans l'organe, dans le journal du Zentralverein. Soit dit en passant, jusqu'en 1938, le judaïsme allemand a eu sa presse. 36 publications jusqu'en 1938, c'est quand même pas mal. Dont 4 journaux tirés à 108 000 exemplaires. Alors en général, il y en avait un de chaque tendance, il y en avait un communautaire, il y en avait un sioniste et puis il y en avait un religieux. Mais jusqu'en 1938, jusqu'à la nuit de cristal, ça fonctionne. Ça entretient donc l'illusion. Qu'est-ce qu'on peut écrire dans ce genre de journaux ? Moi, j'en ai épluché un, et je vous donnerai une ou deux perles tout à l'heure. C'est justement le journal des anciens combattants juifs du front. Le fameux, ça s'appelait Der Schild, le bouclier. Ça n'a rien de juif hein, comme titre. Et le président était le capitaine Löwenstein, Hauptmann Löwenstein, croix de fer première classe, décoré sur le front et très fier de l'être. Chaque numéro du journal publiait les chiffres des juifs tombés en 14-18, pour bien rappeler que les juifs avaient grandement fait leur devoir. Alors le Zentralverein écrit en février 34, « Nous ne pouvons pas abandonner les valeurs de la civilisation et de la nature allemande. » Vous voyez, on est en âge en plein Goethe, là. Les petits oiseaux, les fleurs et la culture. « Mais nous reconnaissons l'exigence de la nation allemande qui veut décider avec nous et l'ensemble des organisations juives d'Allemagne des dimensions et des limites de notre champ d'activité ainsi que du sens et des formes de notre coopération. » 1934. On va coopérer. On va limiter notre terrain, c'est vrai, mais on va coopérer. 34. Le président, alors le fameux Hauptmann Löwenstein, lui fait mieux en avril 34, un an après le boycott des magasins. Il écrit « La solution du problème juif est possible à l'intérieur de notre patrie, à condition que la discrimination raciale ne soit pas une diffamation raciale. » On accepte la discrimination, pas la diffamation. Qui nous paraît inacceptable et injuste en regard de notre passé. Voilà la liste de nos morts, hein, tombés au front. Chaque fois, on la rappelle. Même thème, repris en 34 et en 35, j'ai les comptes rendus, des assemblées générales, y compris de l'association de secours juif, Jüdischer Hilfsverein. En 35, toujours cette association d'anciens combattants, vous savez qu'on réintroduit le service militaire obligatoire en Allemagne en 1935. Eh bien, l'association des anciens combattants juifs regrette que le Wehrgesetz, la loi sur la remilitarisation, soit liée à la race et recommande quand même aux jeunes juifs allemands de se porter volontaires pour être enrôlés, pour montrer leur bonne volonté patriotique. 1935. C'est-à-dire l'année de la première grande législation raciale, ces interdits sexuels dont Kurt a parlé, et ainsi de suite. La fameuse législation commentée par le sieur Globke, qui est devenu plus tard le secrétaire d'État de M. Adenauer, après la guerre. Bien. Eh bien, malgré cela, même les Juifs qui quittent l'Allemagne, qui émigrent, dont je vous ai parlé, ils vont le moins loin possible. J'ai d'ailleurs trouvé, en étudiant l'histoire des Juifs allemands, que ça a toujours été comme ça. Ils allaient le moins loin possible en se disant « ça, c'est à ça, et puis on pourra revenir ». D'où d'ailleurs l'afflux vers la France, près de la moitié des premières immigrations, je fais un rapport là-dessus en ce moment, s'est fixé en France. Le coup d'arrêt est donné en France en 1936, fort curieusement, ça coïncide avec le Front populaire. Il y aurait d'ailleurs beaucoup de choses à dire sur le Front populaire et les Juifs émigrés d'Allemagne. Je me charge de le faire à un colloque qui aura lieu en septembre prochain. Un colloque non-juif. Donc, en 1935, on croit encore à la coopération et cette représentation des Juifs du Reich dont je vous ai parlé estime que ces lois de Nuremberg de 1935 sont destinées, je cite, à établir des rapports supportables entre Allemands et Juifs. On croit toujours à un arrangement. Un dirigeant sioniste, parce que je crois qu'il ne faut pas faire de mythologie sur le sionisme en Allemagne à l'époque, parce que les Juifs sionistes étaient quand même aussi en grande majorité Allemands. Bien sûr, certains ont dit c'est les Juifs polonais qui cherchent une émigration possible, mais il y avait aussi des Juifs allemands comme Franz Oppenheimer, le banquier, qui étaient des sionistes de la première heure, même s'ils n'avaient aucune envie d'émigrer. Eh bien, des dirigeants du sionisme allemand de la communauté de Berlin dit à la même époque « La vie est possible sous n'importe quelle loi, mais on ne peut pas vivre dans l'ignorance complète de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas. » Ça illustre bien l'anecdote de Kurt qui s'enfuit d'Allemagne en respectant les lois. Il faut des lois, donc c'est pas si mal que ça. On peut aussi être un citoyen utile et respecté comme membre d'une minorité au sein d'un grand peuple. Et c'est là que se dessine la nouvelle voie du judaïsme allemand, celle qui est préconisée par les sionistes et qui va être la seule voie possible pour justifier le fait de rester en Allemagne. Être une minorité consciente au sein d'un grand peuple. Je vous donne exprès la citation parce qu'elle illustre bien l'évolution. Coopération, mais comme minorité consciente au sein d'un grand peuple. Et alors, aux surprises, en 1935, ça vient aussi en grande partie des milieux sionistes, mais c'est aussitôt repris avec empressement par les dirigeants des communautés qui, eux, sont beaucoup plus désemparés, qui n'ont pas assez réfléchi, on parle d'une renaissance juive. En 1935, en plein Troisième Reich, les Juifs allemands pensent résoudre la situation en passant de l'assimilation, dont Kurt a largement parlé. Je vous signale en passant qu'il y a eu en 1900, je ne sais plus si c'est 15 ou 20, un livre, ça m'a sidéré, le titre « Fin des Juifs en Allemagne ?» Point d'interrogation. Non, c'est pas ce nom-là.
Non, Heller, c'était la fin du judaïsme.
Non, c'est la fin du judaïsme. C'est Thies ou... Enfin, je le retrouverai parce que j'ai trouvé ça à Cologne, à la Germania Judaica. En fait, c'était le cri d'alarme contre l'assimilation, simplement. Parce que si on avait laissé faire le judaïsme allemand, au bout d'un siècle, il n'y aurait plus eu par assimilation. Après la Première Guerre mondiale, surtout. Eh bien, maintenant, on passe de l'assimilation à la désassimilation. Former une minorité consciente au sein du grand peuple. Notamment en rejoignant les rangs du sionisme. Alors, là, il faut quand même ouvrir une parenthèse. Vous m'en voudrez peut-être, je vais vous choquer, mais personnellement, j'estime qu'en histoire, on n'a pas le droit d'avoir des tabous. J'ai publié La Nuit de Cristal, une séance assez difficile à la Société d'Histoire Juive, parce qu'on m'a accusé de minimiser l'histoire des camps du génocide, en montrant les premiers camps où on ne pratiquait pas le génocide. Mon propos n'était pas de minimiser, mon propos était de montrer l'escalade, que tous les États spectateurs, comme je les ai appelés, ont laissé faire. Mon propos, c'est qu'on aurait pu arrêter les dégâts, et qu'on ne l'a pas fait. Et le « on », c'est tous les peuples dits civilisés. Ce n'est pas du tout pour minimiser, je prétends que rien de tout cela n'était dessiné d'avance, Hitler était un pragmatique. C'est la politique des petits pas, et je vous montrerai parfois que quand ça ne marchait pas, il arrêtait l'expérience, quitte d'ailleurs à la recommencer sous une autre forme un an plus tard. Et tout le monde a laissé faire. C'était ça mon propos. Et je dirais que le sionisme, à un moment donné, a été l'interlocuteur valable aux yeux des nazis. Ça choque aujourd'hui peut-être, mais je vous demande de vous reporter dans le contexte de l'époque. Eichmann à Jérusalem, lors du procès, a dit lui-même son intérêt pour le sionisme, c'est-à-dire un peuple conscient de ses racines et de sa dignité en tant que peuple, et il a lu « L'État juif » de Herzl et « L'histoire du sionisme » d'Alfred Böhm. Il est un des rares dirigeants nazis, d'ailleurs, à les avoir lus, mais il les a lus. Et ça lui a beaucoup plu. D'où d'ailleurs ces trois projets qui ont tous échoué, d'un État juif quelque part, dont un est le plus connu, c'est Madagascar. J'ai suivi année par année, jusqu'au moment, presque à la veille de la solution finale, c'est-à-dire 41, le projet de Madagascar n'était pas abandonné. Il a failli réussir. L'idée ne venait d'ailleurs pas des Allemands, elle venait déjà des Polonais. Et puis elle est venue aussi d'un idéologue allemand du 19e siècle, Paul de Lagarde. Alors, pour vous montrer que les dirigeants sionistes s'égaraient parfois quelque peu aussi dans leur fierté nationale de juifs, dans cette renaissance juive, je vous en cite un qui était très connu, Robert Welch, dirigeant sioniste allemand, éditeur en chef de la Jüdische Rundschau, qui était un des journaux les plus importants du judaïsme allemand, et qui dit à ses coreligionnaires, 6 ans avant l'introduction de l'étoile jaune, 6 ans avant, portez avec fierté l'étoile jaune, c'est-à-dire montrez partout que vous êtes juif. Et dans son journal, on appelle éternel à tarder ceux qui n'ont pas compris cette renaissance du judaïsme. Pourquoi les organisations sionistes étaient-elles considérées comme les seuls interlocuteurs valables des dirigeants nazis ? Eh bien, je vous ai déjà dit que beaucoup d'associations juives allemandes avaient pour objectif, avant le nazisme, la lutte contre l'antisémitisme, ce qui les disqualifiait immédiatement, puisqu'ils étaient estampillés ennemis du Reich. Seule une association qui avait des objectifs nationaux, voire nationalistes, était considérée comme interlocuteur valable. Et au début d'ailleurs, il y a peu d'écrits là-dessus, mais il y en a quand même quelques-uns, il y a eu des déclarations notamment de Moshe Charette qui avait fait scandale en son temps, il y a eu une véritable coopération, limitée mais réelle, germano-sioniste pour l'émigration en Palestine, ce qui était alors la Palestine. L'accord s'est fait, tout à fait, enfin officieusement, mais il a bien existé, entre l'agence juive et les autorités du Reich, pour le transfert d'émigrés avec leurs biens par le biais de marchandises allemandes. Oh, les Allemands n'étaient pas du tout désintéressés. Je vous rappelle que jusqu'en 1939, la politique nazie était l'émigration forcée des Juifs, pas du tout l'extermination. En faire sortir le maximum possible, pourvu que ça coûte le minimum d'argent, de devises. Et j'y reviendrai tout à l'heure, il y a eu des tractation tout à fait officielle entre M. Schacht, ministre de l'économie du Reich, et M. Röbli, délégué de la conférence internationale pour les réfugiés nés de la conférence d'Évian et envoyé spécial de Roosevelt, pour faire un plan de 5 ans destiné à faire émigrer 400 000 juifs allemands. Les quotas par âge étaient même prévus, j'ai le plan chez moi. Et ça aurait été pris en charge par les communautés juives du monde, en grande partie, avec un fonds spécial d'émigration, moyennant achat de marchandises allemandes. Le même principe a été adopté avec l'agence juive, et là, je dirais une anecdote tragico-comique. Pendant que les juifs dans le monde occidental, et surtout aux États-Unis, s'évertuaient de faire boycotter les marchandises allemandes, comme une forme de réprobation du régime nazi, eh bien le pays qui avait le plus de marchandises allemandes, c'était la Palestine. Parce qu'il fallait échanger, transférer les biens des Juifs qui émigraient vers la Palestine sous forme de marchandises allemandes, parce que l'Allemagne ne voulait pas lâcher de devises. Eh bien, c'est un des grands paradoxes de notre histoire. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas de honte à parler de tout cela, hein, contrairement à ce qu'ont dit certains. C'était des mesures de sauvetage dans la mesure de l'impréparation des communautés juives et surtout de la communauté mondiale. Il y a eu même des émissaires venus de Palestine, je parle toujours de la Palestine puisqu'il ne s'agit pas encore de l'État d'Israël, pour obtenir l'aide des nazis contre les autorités britanniques, mandataires de l'époque, pour la fameuse Aliya Bet, l'émigration clandestine, illégale, sous mandat britannique donc. Et là, Eichmann a déposé sous serment, et ça a pu être vérifié, il a aidé ses émissaires à installer des camps de formation de jeunes juifs allemands et autrichiens pour l'émigration vers la Palestine. Vous trouverez des détails aussi pour la Yougoslavie. Vous trouverez des détails dans le livre de John et David Kimche, K-I-M-C-H-E, The Secret Roads, les voies secrètes, The Illegal Migration, la migration illégale, of a people, 1938-48. Ça inclut aussi ce qui s'est passé après la guerre, mais il y a un passage très intéressant sur la coopération nazie pour l'émigration illégale vers la Palestine. Ça a arrangé beaucoup les nazis. Mais là où nous retombons dans l'ambiguïté que je vous ai déjà soulevée tout à l'heure, c'est lorsqu'il s'agit de la coopération des communautés juives à ce travail. Les communautés juives ont cru bien faire de dresser les listes de leurs membres pour que les émissaires juifs de Palestine puissent sélectionner les plus aptes à la vie dans les conditions les plus dures de l'époque de la Palestine. Ces listes ont servi, mais pas qu'à ça, comme on l'imaginait. On n'a pas encore beaucoup parlé, mais je crois qu'il faudra aussi le faire un jour, des listes des communautés juives qui ont servi souvent à rafler les juifs, y compris d'ailleurs en France. En France moins, puisqu'il y a eu la déclaration dans les commissariats de police. Mais en Allemagne, je vous rappelle que jusqu'en 1938, les communautés juives étaient des corporations de droit public, c'est-à-dire reconnues par l'État et touchant des subventions d'État, jusqu'en 1938. Par conséquent, elles étaient tenues à certaines obligations envers l'État qu'elles ont remplies. Par exemple, le docteur Paul Epstein, qui a péri comme Judenältester, ancien de juif, dans le ghetto de Térésine en 1944, a été un véritable agent de liaison entre les communautés juives allemandes et les autorités nazies, y compris Eichmann. Parce que nous connaissons bien le monstre Eichmann, dont l'activité a été dévoilée au procès de Jérusalem, mais on connaît moins bien la première période de l'activité d'Eichmann, celle donc où il avait lu les livres sionistes et où il était imbu du rôle qu'il lui appartenait de jouer dans l'émigration forcée des Juifs d'Allemagne et d'Autriche. Il a monté une centrale exemplaire, il faut bien le dire, à Vienne, encore en 1938, estimant que les Juifs riches devaient payer pour les Juifs pauvres et organiser ainsi l'émigration, avec l'aide d'ailleurs des dirigeants de la communauté juive de Vienne. Là aussi se situe une anecdote comique d'abord, mais tragique ensuite. L'un de ces dirigeants s'est retrouvé par mégarde à Auschwitz. Il n'aurait pas dû être déporté, parce qu'aucun de ses dirigeants ne devait être déporté, et il a dit au commandant du camp, Huss, appelez Eichmann, il y a erreur. On appela Eichmann, qui effectivement dit, mais c'est une erreur monumentale, et fit des pieds et des mains pour faire sortir ce docteur Stoffel. Et il lui fut répondu par Himmler soi-même que quiconque entrait à Auschwitz ne pouvait en sortir vivant, parce qu'il avait vu trop de choses. Eichmann est allé en personne à Auschwitz voir le docteur Stoffel. Elle lui a dit, j'ai vu les chefs suprêmes, on ne peut pas vous faire sortir, mais je veux au moins alléger vos conditions de vie. Et il lui a dit, ben, le travail est trop dur, je ne tiendrai pas le coup. Et Eichmann va trouver Hoesse et lui dit, écoutez, cet homme a rendu d'éminents services, c'est un fonctionnaire modèle, dirigeant remarquable de la communauté, il ne peut pas travailler comme ça. Ici, tout le monde travaille, répond Hoesse. Alors, essayez de trouver un semblant de travail. Alors, on lui a trouvé un balai, un banc où il pouvait s'asseoir pour faire semblant de travailler. Ça n'a pas empêché que, quelques mois après, il a été fusillé. Il n'est jamais ressorti d'Auschwitz. Mais c'est pour vous illustrer la complexité des rapports des juifs allemands de l'époque. Ainsi, en 1936, vous savez qu'il y a eu une trêve par les Jeux olympiques. Il ne fallait rien montrer aux visiteurs étrangers. Je me souviens que Carl Lidbom, qui était ministre social-démocrate suédois de la justice, ami d'Olaf Palme, qui est un de mes amis, me racontait qu'il a été traumatisé à vie par le spectacle qu'il a eu de Berlin aux Jeux olympiques quand ses parents l'y entraînaient à l'âge de 11 ans. Mais il dit, je n'ai rien vu concernant les juifs. Ben forcément, on avait tout enlevé. On l'a remis après d'ailleurs. Et je signale, je ne veux pas faire de la publicité pour mes livres, mais j'en ai écrit en allemand, pour les Allemands. C'est l'histoire d'un protestant marié à une juive et qui de ce fait est entraîné dans le destin juif. C'est Jochen Klepper, qui est un écrivain, qui aurait été un best-seller sous le nazisme, qui l'a été, et qui aurait été, comme on disait, le Goethe du Troisième Reich, s'il avait accepté de se séparer de sa femme juive. Il a refusé et ils se sont suicidés tous les deux, fin avec la fille de sa femme, c'était le second mariage, en 1943. Et il a tenu son journal de 1932 à 1943, et c'est à partir de ce journal que j'ai écrit sa biographie pour le peuple allemand, pour qu'il comprenne l'engrenage, y compris de gens qui n'étaient pas juifs. Parce que j'ai toujours le sentiment que les Allemands comprennent mieux quand on ne leur parle pas des Juifs. Ce qui arrive en ce moment avec le président du Württemberg, qui était un fiefé nazi, hein, même s'il est démocrate chrétien aujourd'hui, touche beaucoup plus les Allemands parce qu'il a envoyé à la mort un jeune marin allemand qui voulait déserter au moment où c'était vraiment plus la peine de l'envoyer à la mort. Alors ça remue les Allemands, vous ne pouvez pas savoir, beaucoup plus que les 6 millions de Juifs, parce que c'est un jeune Allemand. Alors, j'ai écrit exprès ce livre pour les Allemands. C'est un bon Allemand comme vous, c'est un bon luthérien. Il a même voulu être soldat encore en 1941, malgré sa femme persécutée. Ça ne l'a pas empêché d'ouvrir le gaz et d'avaler du cyanure. Alors là, ils sont bouleversés. J'ai eu récemment un débat en Allemagne là-dessus. Ça les dépasse. Alors, bien entendu, la coupure se situe fin 1937. Les Juifs ont cru que, donc, arrivés à la coopération, par la conscience nationale juive et le respect de l'État allemand, le tournant est pris fin 1937 lorsque le journal des SS dit que c'est une aberration, que les Juifs n'ont plus de rôle dans la vie politique, dans la vie culturelle, dans la vie biologique, mais qu'ils en gardent un énorme dans la vie économique. Et ça n'était pas un hasard. À ceux qui pressaient les dirigeants nazis de flanquer tous les juifs dehors du commerce et de l'industrie, Göring, qui était quand même le chargé du plan, dit « pas avant que je puisse les remplacer ». Et ce tournant arrive fin 1937. C'est la période qu'on a appelée l'arianisation des biens juifs. Et c'est un jeune chercheur allemand qui a écrit le meilleur livre là-dessus, qui s'appelle « Die Verdrängung der Juden aus der deutschen Wirtschaft », c'est littéralement la poussée des Juifs hors de l'économie allemande. Il montre que ça s'est fait progressivement. Donc, c'est en 1937, suit en 1938, on pourra y revenir, si vous voulez, dans la discussion, une avalanche de mesures anti-juives qui forment une espèce de carcan asphyxiant, excluant les Juifs de toutes les professions où ils étaient encore jusque-là, leur enlevant leur logement. Là-dessus vient l'Anschluss en Autriche, où les Juifs voient des pogroms qui dépassent en violence tout ce qu'ils ont, eux, connu depuis 1933. Les Autrichiens se sont d'ailleurs vantés d'avoir réalisé en 2 semaines ce que les nazis en Allemagne avaient mis plus de 5 ans à réaliser. On oublie toujours cette idyllique Autriche. J'en reviens. J'étais à un congrès là-bas, et mon ami, le commissaire Jacques Delarue, qui est spécialiste dans la chasse aux criminels de guerre, partage mon opinion que l'Autriche reste truffée de nazis. Et une des explications, vous voyez que je ne vais pas vous faciliter la réflexion, c'est qu'à la tête de cet État, il y a un juif qui croit nécessaire de se faire pardonner d'être juif en couvrant d'anciens nazis. Il y a eu toute une polémique avec Simon Wiesenthal qui a voulu dénoncer cette situation et qui s'est fait traiter d'agent de la CIA. Alors, je suis allée en Autriche et je compte y retourner parce que je crois qu'il faut dénoncer ce qui se passe là-bas. C'est très grave. Je vous rappelle aussi que l'Autriche, c'est quand même le pays natal des pires nazis. Pas seulement d'Hitler, mais d'Eichmann, de Kaltenbrunner, chef de la Gestapo, et j'en oublie, et des meilleurs. Alors, qu'on en finisse avec l'idylle autrichienne, moi je suis toujours sidérée quand mes étudiants germanistes me disent « Mais l'Autriche, ça, alors là, eux on les a forcés, mais c'est un charmant pays. » Et certains de mes collègues autrichiens, c'était un congrès de l'UNESCO, m'ont dit que ça leur a rendu le plus mauvais service quand en 1955, on a signé le traité d'État avec eux qui leur rendait leur souveraineté et les traitait en victimes simplement du nazisme. Donc, en Autriche, les choses ont été beaucoup plus brutales et c'est, je crois, l'un des principaux motifs de panique des Juifs allemands. Ils voient que, vraiment, les choses vont mal. C'est aussi en 1938 qu'on brûle les premières synagogues, avant, bien avant la nuit de cristal, en juin, en juillet et en août, sont successivement expropriées puis dynamitées les synagogues de Munich, de Nuremberg et de Dortmund. À Nuremberg, avec M. Streicher, qui était un obsédé de l'antisémitisme, mais aussi des problèmes sexuels, je pourrais en dire quelques mots plus tard, la cérémonie d'expropriation a eu lieu en sa présence, et c'est une grue géante qui a démonté le Magen David de la coupole devant une foule absolument frénétique. C'est là aussi, je donne ce détail quand on me dit que le peuple allemand ne savait pas. Il savait beaucoup de choses. Et c'est là alors que surgit le premier afflux de candidats à l'émigration, les consulats et les ambassades sont débordés. Les délégués des communautés juives d'Allemagne et d'Autriche sont d'ailleurs autorisés en 1938 par le Troisième Reich, toujours dans la ligne de l'émigration forcée. Ces délégués sont autorisés à participer à la conférence d'Évian. Ils viennent avec un dossier volumineux. Résultat, on les reçoit 5 minutes. 5 minutes. Et celui qui les reçoit, c'est le ministre du commerce australien, qui en séance plénière a déclaré « Nous, on ne veut pas de juifs chez nous parce qu'on ne veut pas importer un problème racial. » Voilà l'homme qui le reçoit. Et pendant ce temps-là, donc, les mesures s'accélèrent en Allemagne et c'est là que se situe la convocation presque quotidienne des responsables des communautés juives et des organisations sionistes. Dès 7 heures du matin, ils sont convoqués à la Gestapo et on leur martèle pendant des heures qu'il faut qu'ils pressent les juifs d'émigrer. Voyez bien, c'est plus possible, il faut partir, il faut tout abandonner et s'en aller coûte que coûte. Alors là, les juifs commencent à sentir qu'ils sont pris au piège. D'un côté, on les presse d'émigrer. De l'autre côté, une loi a instauré la déclaration et le contrôle général de leur fortune et de leurs biens. Alors ils ne veulent pas partir sans rien. Et j'ai cité dans la nuit de cristal l'exemple quand on a arrêté 20 000 juifs au moment de la nuit de cristal. Et ça, ça n'a pas plu non plus quand je l'ai dit dans certains milieux juifs. On leur a offert le choix, on vous libère du camp si vous émigrez tout de suite en cédant tous vos biens à l'Allemagne. Tous les jours, les haut-parleurs martelaient ça pour les juifs rassemblés. Ben, il y en a qui ont fini par céder en se disant il vaut mieux sauver sa peau que ses biens. Mais ça n'a pas été évident, même en 1938, ça n'a pas été évident tout de suite. Donc, il y a eu, comme je l'ai montré, une coopération pour l'émigration forcée jusqu'en 1939. En 1939, Eichmann monte en grade. Il devient chef du centre des migrations juives du Reich, en reconnaissance des services qu'il a rendus dans les mêmes fonctions à Vienne puis à Prague. Je vous rappelle qu'entre-temps, la Tchécoslovaquie a été occupée aussi. Mais là, le pauvre Eichmann, enfin, le pauvre, j'ironise, se trouve coincé. Son travail à lui, déclare-t-il le procès de Jérusalem,